émission. Donc aujourd'hui, on est donc le troisième mercredi du mois et donc l'émission reçoit aujourd'hui deux invités qui sont venus ensemble. Donc Régis Daubin, qui est l'animateur des éditions Oxibia. Pardon.
Bonjour.
Et bonjour. Et puis, ils viennent donc du 06 de
Magagnosque.
Moi, je viens d'Artignosque. Et Daniel Chinès, qui est auteur de Dans les plis du chagrin, et qui vient aussi du 06 ?
Du 83.
Du 83, d'accord. Donc, on va avoir une rencontre avec eux. Ils vont nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un éditeur dans le 06, et puis qu'est-ce que c'est que ce livre Dans les plis du chagrin. Voilà. Donc, on va démarrer cette émission. Alors, Régis, les éditions Oxibia, hein, ouais. Je ne me trompe pas.
Ouais, c'est bien ça.
Voilà, elle date de combien d'années ? Quel a été le facteur déclenchant ? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi,
en fait, c'est une association.
C'est une
association loi 1901. Mm-hmm. Donc, en fait, moi, j'étais plus branché musique. Donc, j'ai créé cette association en 2008. Mmh. Et donc au départ on était deux et le collègue devait s'occuper plutôt de la partie édition et moi plutôt de la partie musicale, mais bon après il y a eu on s'est pas très bien entendu, donc finalement j'ai tout récupéré.
D'accord.
Mais ça a été créé en 2008.
Mais l'idée, c'était dès le départ de faire de la musique et de l'écrit, des livres.
Ouais. Oui. Ouais.
D'accord.
Musique parce que moi, j'ai pris des cours de batterie. Ça fait 20 ans que je travaillais dans une association musicale, mm-hmm, avec un batteur. Donc j'avais plutôt l'esprit tourné vers la musique et lui, l'esprit plutôt tourné vers l'écriture et l'édition. Donc on a dit, on va se mélanger et chacun va s'occuper de sa partie. Puis bon, en fait, très vite, moi, j'ai gardé l'esprit association loi 1901. Et lui était plutôt, entre guillemets, côté business, même si l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais bon, il y avait cet esprit-là qui était très, très important pour moi, qui lui, il ne lui plaisait pas, donc...
Vous êtes séparés.
On s'est séparés, chacun, d'accord, a fait son chemin. D'accord. Il a montré sa propre structure après. Mmh. Et voilà. Ce qui fait que j'ai récupéré aussi l'édition. Mmh. Et en fait, à la longue, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant la partie livre, la partie édition, que la partie musicale où j'interviens uniquement sur la prod et sur le packaging. D'accord. Je n'interviens pas dans la musique, tout ça, donc... Il y a moins de moi dans un CD que je produis que non pas un livre.
D'accord. Voilà. Mais enfin, bon, donc devenir éditeur, donc ça, c'est venu un petit peu comme ça par accident, on va dire.
Ouais, c'est improvisé.
Après, bon, quels sont les premiers livres que vous avez édités ? Pourquoi ? Quel choix ? Vous aviez eu, on dit toujours, une ligne éditoriale, non ? Oui. Ou des envies ?
Oui et non. En fait, c'est pareil, elles ont évolué au fur et à mesure. Au début, donc, ce fameux collègue était branché plutôt poésie. Donc, on avait une seule collection et c'était uniquement de la poésie. Parce qu'au départ, on ne devait faire que de la poésie. Et puis, de fil en aiguille, par nécessité aussi, par rencontre, j'ai créé une deuxième collection qui s'appelle Mefakikon, qui veut dire « ça me fait quelque chose en Languedoc-Roussillon, en patois ». Donc, voilà. Et au fur et à mesure, en fait, tout ça s'est étoffé. La poésie et les romans, d'accord, qui sont plutôt mes coups de cœur, des choses comme ça.
Mmh. Alors, aujourd'hui, vous en êtes où ? Il y a combien de livres édités ? Il y a combien de collections ?
Donc, il y a deux collections. Il y a un livre qui est hors collection que je présenterai peut-être un peu, j'en dirai deux mots tout à l'heure parce que j'en suis assez fier, mmh, parce qu'il regroupe en fait les deux activités,
la musique
et l'écrit. Mmh. Et il y a une dizaine de livres au catalogue.
D'accord.
Donc je sors un à deux livres par an.
D'accord.
Voilà. C'est beaucoup de travail. Je travaille en dehors de cette association.
D'accord. Oui, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas votre métier principal.
Voilà, ce n'est pas mon métier. J'apprends au fur et à mesure. Mmh. Donc voilà, j'ai fait mes classes au fur et à mesure des bouquins. Et en fait, quand je feuillette maintenant les bouquins, je vois aussi l'évolution de la maison d'édition. les erreurs qu'on a fait au début et tout ça. Donc c'est, c'est assez rigolo.
On apprend en éditant, c'est
ouais,
ça.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Puis bon, moi je connaissais rien en fait. Mmh. Et maintenant, on fait tout. On se fait la mise en page, on fait la correction, on fait tout, sauf l'imprimerie. Mais sinon, de A à Z, on fait tout. Et le service après-vente, et voilà.
Alors, quand vous dites « on fait tout », vous êtes plusieurs, c'est l'association, vous êtes nombreux, il y a un travail collectif dans le choix des livres, ou vous êtes seul à décider comment ça se passe, en fait?
Dans le choix, je ne suis peut-être pas seul, mais c'est moi qui vais en parler, déjà. Enfin, ce que moi, je privilégie, c'est le contact humain. Donc déjà, il faut qu'il se passe quelque chose avec l'auteur. Il faut qu'il y ait déjà une première rencontre. Avant de parler de livres ou quoi que ce soit, il faut qu'il se passe quelque chose humainement avec cette personne, déjà. Mmh. Après, tout le reste, ça suivra. Mais dans un premier temps, c'est le rapport humain, quoi.
Alors peut-être qu'on peut demander à Daniel Chinès, qui est l'auteur qui vous accompagne aujourd'hui, si effectivement pour elle il s'est passé quelque chose dans cette rencontre. Ça s'est passé comment?
J'ai rencontré Régis à Grasse au cours de journées que l'Armatan, qui était l'éditeur chez qui j'étais à l'époque, avait organisé. Et puis on était toute une bande d'auteurs de l'Armatan. Et Régis est venu près de notre table, a demandé s'il pouvait s'asseoir aussi. Mmh. On a trouvé que c'était culotté parce qu'on était plusieurs et puis on voulait rester entre nous. Il avait une tête sympathique, on a dit oui, pourquoi pas. Mmh. Donc il s'est assis et puis de fil en aiguille, on l'a trouvé franchement intéressant. Il nous a parlé d'Oxibia et voilà. Et depuis, on ne s'est pas quitté, c'est-à-dire on se voyait régulièrement. Et il m'est arrivé très souvent de penser à lui en me disant « Le prochain livre que je vais écrire, je vais demander à Régis s'il veut bien l'éditer. »
D'accord. Donc, voilà. Vous n'aviez à l'époque de la rencontre pas de livre à éditer, mais c'est venu après. Quoi, quand vous vous êtes dit « Ce livre-là que j'attaque, c'est pour lui. C'est avec lui que je veux le faire. »
Oui, au fur et à mesure que je l'écrivais, je me disais « Comment tu vas demander à Régis s'il veut bien accepter le livre ?» J'avais écrit 3 livres chez l'Armatan, mmh. Et celui que vous allez présenter tout à l'heure est tout à fait en rupture avec les 3 autres. Mmh. Donc voilà, c'est pourquoi je lui ai demandé. Alors, il n'a pas dit vraiment oui. Hein,
et puis, ah bon.
S'il vous dit le contraire, c'est un menteur. Mmh. Il n'a pas vraiment dit oui, il a dit oui, je vais voir. Mmh. Donc ce n'était pas très rassurant comme réponse. Mmh. Hein. Et puis, il l'a fait lire à son comité de lecture. Et vous savez ce que le comité de lecture a dit?
Non.
On est emballé.
Ah, bon.
Donc, alors, c'est peut-être ça qui l'a décidé.
Bon. Donc, c'était une rencontre qui était finalement... lui, il n'était pas emballé sur ce livre.
Il était prudent, on va dire. Prudent.
Oui. Mais c'est peut-être le rôle, justement.
En fait, je ne l'ai pas lu, le livre.
Bon, d'accord.
Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Mmh. Et en fait, je voulais travailler avec Daniel aussi depuis longtemps. Mais je faisais un peu durer le suspense. Et en fait, le comité de lecture n'a fait que dire oui, OK, on peut y aller. Mais sinon, encore une fois, je fonctionne comme ça. Donc oui, on s'était rencontrés, mais voilà, on avait sympathisé, on en avait parlé beaucoup. Donc voilà, je voulais en savoir plus. Mm-hmm. Et puis, entendre parler de son livre. Voilà, après...
Je trouve que c'est assez intéressant parce que bon, quand on est éditeur, on ne se décide pas forcément sur le texte. Il y a d'abord la rencontre, apparemment, pour ce qui vous concerne. Il y a une rencontre, vous avez eu envie l'un comme l'autre de travailler ensemble.
Ouais, c'était primordial déjà dans le choix. C'était important par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Puis il y avait aussi le thème du livre, moi qui me touche, parce que j'ai vécu exactement la même chose que Daniel. Mm-hmm. Donc ça aussi, j'appréhendais en fait, parce que le livre, j'ai commencé à le lire.
Après le comité de lecture.
Ouais, mais je ne suis pas arrivé à le lire.
D'accord. Ouais,
parce que ça me touche trop. Si je me sens... Justement, j'avais acheté des livres avant qui parlaient du deuil, du rupture, de... Et donc, j'avais été déçu en fait par les livres parce que je trouvais qu'ils étaient pas assez intimistes, qu'ils allaient pas assez en profondeur dans les sentiments de ce qu'on peut éprouver quand on perd quelqu'un, tout ça. Donc voilà. Alors,
comme on a commencé à parler du thème du livre, il va falloir qu'on dise maintenant pour les auditeurs de quoi il est question. Donc c'est un livre sur le deuil.
Hein. Oui.
C'est venu comment donc,
Alors c'est un livre sur le deuil, sur la perte irréparable d'un être dans une famille heureuse, militante. Très militante, qui milite au Parti communiste depuis les années 45, qui se consacre entièrement à cette vie politique, mais qui voit derrière la porte le socialisme qui va arriver. Donc on est très heureux dans cette famille. Et puis voilà, arrive cet accident de voiture en avril 61, ce cataclysme qui va effondrer à la fois la vie familiale, mais aussi la vie politique, c'est-à-dire que l'idéal va s'effondrer aussi avec la famille.
Avec la disparition de la personne.
Oui, parce que cette famille va se trouver, enfin ces adultes qui sont les parents, vont se trouver confrontés à l'incompréhension de l'appareil politique, qui n'admet pas cet effondrement et qui considère que cet homme et cette femme doivent continuer de militer. Et comme cet homme a des responsabilités importantes dans le Parti communiste, le parti exige qu'il revienne reprendre ses fonctions. Mais il ne le peut pas. Il ne le peut pas.
D'accord. Ben dis donc, oui. Donc c'est,
tout un programme.
Ça s'appelle, oui, il y a un sous-titre, donc ce livre s'appelle Dans les plis du chagrin, il y a un sous-titre qui s'appelle Lettre à l'absent.
Oui.
Donc alors, il se passe dans ce livre un dialogue, comment ça se passe en fait?
Oui, alors c'est un dialogue à une voix, parce que évidemment l'absent ne répond pas du fait qu'il est mort, et que j'ai mis quand même j'ai mis 50 ans à écrire ce livre. Voilà. Donc je m'adresse à lui pour... lui raconter en quelque sorte sa propre mort, mais aussi la dévastation de cette famille, ce que c'est devenu. Et ce que je voudrais souligner, c'est cette erreur fondamentale que nous avons faite dans la famille, c'est le silence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mort, plus personne ne s'est autorisé à parler de lui.
Alors, quand vous dites dans cette famille, c'était la vôtre, a priori.
Oui, c'était la mienne.
C'est,
oui.
c'est pas du tout imaginé. C'est donc quelque chose de vécu.
Non, c'est pas un livre fictionnel.
Oui.
C'est un livre, on peut dire, autobiographique. Et je lui raconte ce que nous avons vécu depuis qu'il est mort.
D'accord. 50 ans.
Depuis 50 ans, depuis 54 ans, exactement. Ouais.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qui... Vous avez écrit plusieurs livres, vous nous l'avez dit tout à l'heure, je veux dire, qui n'étaient pas du tout dans le même style. D'après ce que vous dites, j'ai changé complètement, c'est complètement différent. Et est-ce que ça a préparé ce travail pour ce livre-là, les autres?
Oui, parce que les trois livres qui étaient édités chez L'Harmattan étaient des livres à la fois autobiographiques, fictionnels, historiques. Je voulais raconter à la fois l'histoire d'une famille, d'une saga, et les événements politiques, économiques, sociaux qu'elle traversait, cette famille. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai pensé que j'avais à écrire aussi l'histoire de ce deuil.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que la question que je vous laisse, c'était est-ce que pour une chose très importante qui est ce deuil, est-ce qu'on ne se dit pas je l'écrirai plus tard quand j'aurai déjà travaillé sur l'écriture?
Je ne me disais pas je le travaillerai plus tard. Je me disais je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas l'écrire. Alors, vous savez, il y a des tas de... Il y a des tas de raisons pour lesquelles on ne peut pas écrire sur sa famille. Hein. Je crois que les écrivains actuels, certains ont des problèmes et voire des procès avec leur famille. Je ne sais pas comment ce livre va être reçu par ma famille, parce qu'il y a encore des gens qui vivent et qui ont connu ce drame avec moi. Peut-être sont-ils choqués, attristés, malheureux, je n'en sais rien, je ne sais pas encore. Voilà. Mais je l'ai écrit. Et ce que je dis aussi à un moment, c'est qu'il fallait que je restitue à cet homme de 20 ans, qu'il est mort à 20 ans, il fallait que je lui restitue une vraie place familiale. Pas n'importe quoi, pas ce qui est tronqué, qu'on raconte après. Voilà.
Eh ben, on peut peut-être faire une petite coupure musicale.
Half the story's never been told. What them say? No go so. Life is worth much more than gold. Redemption morning, when all saints are rising, feel the wicked crying for its soul. This man and that man shall say they are the right man, the righteous man will establish himself. Oh, yeah, now, baby. What them say? No go so. Half the story's never been told. You hear me now. What them say? No go so. Life is worth much more than gold. On the great resurrection morning, when all the saints are rising, see the wicked crying for a soul. This man and that man shall say they are the right man, the righteous man will establish himself. Oh, yeah, now, babe. Father, to prosper in our ways, steps, and doings. Grant that in our wishes may be amply fulfilled. Our desires be satisfied, even this day, for the sake of thy great, mighty, and praiseworthy name.
Vous écoutez Fréquence Sinistrale à Digne sur 99.3.
Donc on retrouve, donc je vous rappelle qu'on est dans l'émission Les livres ont la parole, et donc on reçoit aujourd'hui un éditeur et un auteur, donc Régis Daubin des éditions Auxibia et Daniel Chinès, auteur de Dans les plis du chagrin, Lettre à l'absent. On vient d'écouter quelle musique, Régis ?
En fait, c'est Winston McAnuff et Fixie. C'est un concert que j'ai vu dans le cadre des Nuits du Sud cet été.
Oui.
Et c'était carrément génial. Donc voilà. D'accord. Écouter ça, comme vous donner la possibilité aussi d'écouter la musique. Donc voilà.
D'accord. Donc on revient à Daniel. Alors Daniel, donc le livre parle de la disparition d'un homme jeune, hein, et le bouleversement de toute une famille. Alors non seulement une famille proche, hein, les parents, et puis aussi une famille plus large qui est une famille politique, et en particulier un parti. Et là, vous allez nous lire un extrait qui explique ce qui s'est passé à ce moment-là, la réaction des personnes de ce parti.
Oui, alors mon père avait de grandes responsabilités dans le parti et par conséquent, du jour au lendemain, il a cessé de militer. Donc l'extrait que je vais vous lire, c'est la réaction...
Donc votre père, c'est le père de la personne qui disparaît.
C'est ça, c'est le père d'André.
D'accord.
Cricri, ma petite, venait de s'endormir dans mes bras. Quand on a sonné à la porte de l'appartement, elle n'a pas sursauté. Deux hommes se sont présentés. Je ne les avais jamais vus. Papa les connaissait et les a salués. « Bonjour, camarade. » Celui qui avait une casquette sur la tête l'a soulevée et l'a enfouie dans la poche intérieure de son veston. Les trois hommes se sont retirés dans la salle à manger. Notre père a fermé la porte. Je n'entendais pas sa voix, juste quelques échos des paroles des deux camarades. « Oui, bien sûr. Il faut que tu reviennes. Maintenant, intérim. » Mais pas durée, ils insistent. Les militants voudraient pas la lutte. Dans l'entrée, quand papa les a raccompagnés, je l'ai entendu. Il articulait « Je sais, camarade, mais laissez-moi le temps de pleurer mon fils. » Les autres n'ont pas répondu. Au début de l'automne, un jeudi encore qui décidément s'est révélé être le jour des basses besognes, les deux camarades sont revenus. Ils avaient le teint pâle de ceux qui dorment peu. L'entrevue a été brève. Ils étaient juste venus réclamer les clés des locaux du parti dont papa était responsable. Et puis, le coup de grâce, ils s'immobilisent sur le seuil. « Ah, au fait, on voulait te dire, camarade, le parti a trouvé à vous remplacer, Angèle et toi, à la caisse des écoles. » Papa a refermé la porte derrière eux. Lentement, une veine gonflait son cou. Il a regardé notre mère et dit « Le parti est une belle femme qui m'a trahi. Il n'a pas su attendre. » Il ne voulait pas le montrer, mais l'effondrement se lisait sur ses épaules affaissées contre le mur. Il essayait de réaliser ce qui lui arrivait.
Alors, Régis, pourquoi on a envie de publier un livre comme ça ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire partager quelque chose ? Ça vous semble important ? Un texte, un vécu comme ça ?
Oui, parce que c'est aussi mon vécu, comme je disais. Donc, ça me permet peut-être, moi aussi, ça me permettra peut-être d'évacuer aussi certains traumatismes que j'ai aussi. Mmh. Donc voilà, déjà, c'est ça. Et puis, après, la maison d'édition produit, édite des textes forts, engagés, des livres engagés. Donc voilà, celui-ci est dans la ligne.
D'accord. Alors, donc un livre engagé, vous l'auteur, vous aviez... Quel a été le facteur déclenchant quoi, de ça, de dire d'un seul coup je vais écrire cette histoire qui est une histoire personnelle. Et vous vous êtes dit, pour des lecteurs, vous vous êtes dit qu'est-ce que je veux leur dire ? Est-ce que c'est venu simplement dire faut que je l'écrive parce que je suis... le porteur de quelque chose, ou est-ce que ça peut intéresser d'autres personnes ? Est-ce que partager ce que j'ai vécu, ça va permettre à des lecteurs de grandir dans quelque chose ?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce drame est arrivé il y a plus de 50 ans. Mmh. Et il y a une théorie de psychologie qui parle du deuil et qui dit que dans le deuil, il y a 5 étapes qu'on franchit dans le temps. Donc ces 5 étapes, j'ai eu le temps, moi, de les franchir, de les passer, de les réaliser. Et à l'heure actuelle, je suis dans la dernière étape du deuil, c'est-à-dire l'acceptation. Si vous voulez, juste pour rappel, il y a 5 étapes. Mmh. Il y a le déni, on n'accepte pas la mort, on n'y croit pas, il faut absolument que quelqu'un nous dise que ça ne s'est pas produit. Mmh. Il y a la colère à la fois contre ceux qui entourent la mort, mais aussi contre le mort lui-même. Il y a le marchandage, c'est une étape du deuil difficile dans laquelle on se dit au lieu de mourir, tu aurais pu vivre handicapé et nous, on t'aurait soigné. Enfin, tout un marchandage avec la vie et la mort. Il y a une autre étape qui est la tristesse. Donc, je raconte dans le livre que cette tristesse, comme l'a très bien démontré Elisabeth Kübler-Ross, qui parle des étapes du deuil, peut se prolonger indéfiniment. Et puis, si cette étape est franchie, il y a l'acceptation. Et aujourd'hui, je suis à un âge où je suis dans l'acceptation de cette mort. Mais je n'aurais pas pu l'écrire avant, oui, puisque je n'avais pas parcouru tout ce temps.
Oui, oui, c'est intéressant parce que certains pourraient dire, mais pourquoi après 50 ans, on ressort tout ça? Et donc, c'est justement parce que vous avez franchi toutes ces étapes, oui, que vous, oui, pouvez en témoigner, enfin apporter tout ce travail, quoi. Oui, et par rapport à... D'après vous, qu'est-ce que quelqu'un qui lit ce livre peut... alors, Régis a en partie répondu à la question. Qu'est-ce qu'il peut y trouver? Donc, Régis disait, moi aussi, j'ai vécu quelque chose de similaire. Donc, ça peut aider à franchir certaines de ces étapes, d'après vous.
Oui, parce que je crois que nous sommes assez semblables, vous savez, par rapport à une perte irréparable. Je crois que les gens qui vont pouvoir... Les lecteurs qui vont pouvoir lire ce livre vont se retrouver dans ces étapes. Alors, je ne sais pas quelles étapes ils auront franchies. Mmh. Peut-être ils seront arrivés au bout du parcours, c'est-à-dire à l'acceptation. Mais sachez que parfois, on ne les franchit pas, toutes ces étapes. On peut très bien rester dans le déni. Mmh. Par exemple, vous avez des gens qui ont perdu leur mari et qui vont passer le reste de leur existence à parler au fauteuil qui est en face. Mmh. Parce que cette mort n'est pas acceptée. Vous en aurez d'autres qui vont rester dans la colère, d'autres dans le marchandage, d'autres dans la tristesse. Et puis, enfin, il y a des gens qui arrivent à être pacifiés par rapport au deuil qu'ils ont vécu et qui vont pouvoir se souvenir de cet homme ou de cette femme ou de cet enfant de manière paisible. Voilà. Mmh.
Ouais, puis c'est difficile d'en parler, je pense aussi. Donc forcément d'évacuer, parce qu'on garde tout pour nous, en fait. Donc c'est ça qui est, je pense, qui est compliqué à gérer, en fait. Parce qu'on dit 50 ans, mais moi, mon frère est décédé en 77, pareil, d'un accident de voiture. Mmh. J'y pense pas tous les jours, mais il y a certains moments de la vie, certains moments où on partage quelque chose, où boum, ça nous tombe dessus et on repense. Et voilà, et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est qu'on a dit, ah ben là c'est bon, et puis non, c'est pas bon, en fait. Ça revient et c'est encore plus violent, et c'est au moment où on ne s'y attend pas. Voilà, c'est tout ce parcours-là que décrit Daniel, en fait.
D'accord, et c'est intéressant pour un lecteur de retrouver ce parcours-là. Parce que vous dites, on n'en parle pas. Donc c'est intéressant que d'autres en parlent.
Oui, parce que c'est vrai qu'on dit, mais ouais, ça fait 50 ans, oui, ça fait 25 ans, mais mm-hmm. Pourquoi j'arrive pas à vivre avec? Pourquoi j'ai pas oublié? Pourquoi... Voilà, enfin, surtout, essayer de vivre au mieux avec. Mais c'est un tel traumatisme que, voilà, en fait, on a vraiment du mal. C'est déjà, enfin, c'est la première fois où je parle comme ça du livre et je suis ému déjà. J'ai vraiment du mal à parler parce que c'est vrai que c'est très 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 fort ce qu'on ressent. En fait.
C'est, je crois que c'est, l'objectif est atteint si ça permet effectivement de ressentir des choses. On peut en lire peut-être un autre.
Peut-être pour rebondir sur ce que dit Régis, je peux vous lire un passage justement sur ce silence de familial. La mort ne nous était pas indifférente. Nous avions compris depuis des années que la vie se termine un jour. Au terme de la vie, chacun de nous est appelé à disparaître. Nous en étions conscients. Mais la mort restait un concept, une abstraction. Même la disparition des enfants juifs du Sacré-Cœur sous les bombardements de 1943, que j'avais cru vivre dans ma chair, était un traumatisme bouleversant de l'enfance qui n'avait pas rendu la mort palpable. Je m'étais identifiée à ces petites victimes inconnues. Le choc intérieur ne résonnait que de moi. Comparé à ta mort, ce drame ne fut qu'une illusion de la souffrance. Confronté au cataclysme de ta mort, notre famille tout entière est entrée dans un monde de silence, cadenassant la parole, celle qui relate les souvenirs nombreux de la vie passée, évoque les disparus. Ta mort nous avait amputé des chemins de ta vie, des étapes de ton avenir. Elle rendait infranchissable ce que nous aurions dû faire. Parler de toi, mettre des mots sur notre souffrance, les pensées torturantes, les cauchemars. Au lieu de cela, nous avons traîné nos visages silencieux, dissimulé les larmes de la nuit, fait semblant de ne pas souffrir. Chacun a porté son bagage de solitude et avec une apparence trompeuse s'imposa l'effort de l'impassibilité.
Oui, effectivement. Donc, alors, tout au long, vous utilisez le « tu ». Vous adressez à lui en permanence. Voilà. Et effectivement, il répond jamais.
Oui.
Voilà. Et ça, comment on le gère, en fait? Justement, est-ce que dans ce livre, on apporte une réponse? Il y a l'être à l'absent, vous l'avez dit au départ, il ne répond pas forcément. Mais comment on avance là-dedans comment on marche dans ses pas un petit peu? Puisqu'on réinvente la vie qu'il aurait pu avoir.
Alors, c'est ce que je fais à la fin du livre. À la fin du livre qu'on pourrait appeler « Les regrets ». Et je lui dis, voilà ce qui serait arrivé si tu avais vécu. Si tu avais vécu, tu serais devenu un grand scientifique. Tu aurais été comparable à Maroyana, qui est un grand mathématicien qui vient de la même île que nous, c'est-à-dire la Sicile. Tu serais devenu donc ce grand scientifique. On aurait acheté une maison ensemble. Tu aurais appris à faire du cheval à nos petits-enfants. Enfin, voilà, ça c'est, vous voyez, ça c'est la période des regrets. Mais c'est une période qui n'est pas vraiment douloureuse parce que pour y parvenir, il faut avoir accepté la mort.
C'est une période qui est inventive en même temps.
Elle est complètement
inventive. Oui, parce que ce que vous dites, c'est très positif. Oui. Une maison, des enfants,
oui.
Faire du cheval, enfin voilà.
Voilà, on l'aurait acheté.
On a presque on entend les enfants se baigner
bord
la plage.
Oui.
Donc c'est assez positif.
Ouais. Oui, c'est positif et je crois que ça correspond à l'acceptation. Et si parmi nos auditeurs, il y a des personnes justement qui ont ce genre de regrets, c'est-à-dire qui voient un avenir qui n'est pas advenu, je crois qu'ils sont dans l'acceptation. Mmh. Il faut qu'ils se réjouissent d'en être là, parce que ça veut dire qu'ils ont rencontré la paix.
Mmh. Alors, on réécoute un peu de musique.
Écoutez Fréquence Mistral, une radio originale, votre radio locale à Digne-les-Bains, 99.3.
Like crying, welcome to an empty sky. chair. I miss your eyes. Mama stands in the kitchen, please. A cup of coffee placed on the collapsing table. I drag my feet. My thoughts always fly out.
Trouve donc notre émission Les Livres ont la parole et on a donc les éditions Auxibia dont on vient d'entendre une production, Régis. Et...
Ouais, c'est un CD que j'ai coproduit avec le studio ABC Drums.
Oui.
Et on a entendu l'extrait Empty Sky.
D'accord.
Donc avec la participation d'Éric Thiévon, Christophe Manarelli, Bilo et Jean-Marie.
Et le groupe s'appelle comment alors ?
Et le groupe s'appelle Stick Story.
D'accord.
Donc,
c'est un groupe
qui
vient
de retrouver des extraits musicaux sur le site d'Auxibia, auxibia.free.fr.
D'accord.
Donc il y a toutes les informations pour les livres, pour les CD.
Alors justement, ça c'est un autre domaine de production des éditions Auxibia. Et les disques, alors on a dit que vous produisiez à peu près un ou deux livres par an. Les disques, c'est quoi ?
Ouais, c'est à peu près pareil.
Pareil ?
Ouais, un, deux par an.
Et quel type de musique ? Un choix éclectique ou plutôt quelque chose de spécifique ?
Donc au début, je travaillais, c'était plutôt jazz, jazz fusion. Et là, maintenant, en fait, c'est plutôt blues.
Blues.
Blues. Et tout à l'heure, je parlais donc d'un conte musical, en fait, qui était hors collection, d'un livre hors collection. En fait, c'est un conte musical pour des enfants de 2 à 5 ans. C'est un livre familial, en fait. Donc, ça a été fait par Éric Thiévon et toute sa famille, avec, bien sûr, ma contribution. Et, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une histoire, lui, il l'a illustré musicalement. Et j'ai eu l'idée de joindre à ce livre CD, en fait, un package de 5 percussions, petites percussions. Donc c'est pareil, vous pouvez tout retrouver sur le site d'Oxibia.
Donc alors, c'est un livre dans lequel il y a du texte.
Oui, il y a du texte des dessins, musique, de la musique.
Des objets.
Des percussions.
Des instruments de musique.
Ouais. Voilà. Donc, et en fait, l'enfant, ça s'adresse aux enfants de 2 à 5 ans, 2 à 6 ans. Mmh. Et l'enfant va jouer parce qu'il y a du playback, en fait. Mmh. Donc, au fur et à mesure qu'il entend l'histoire, ça joue de l'instrument et l'enfant peut répéter le son qu'il entend.
Oui, il est entraîné à jouer, à participer à ce qui se passe là.
Et en fait, le livre plaît beaucoup parce que tous les gens à qui je l'ai vendu, j'en ai de très très bons retours et on me dit, mais pourquoi t'as pas rajouté plus d'instruments?
Oui.
Je dis, voilà, ça coûte très cher.
Oui.
Et parce que c'est ce que je précise aussi, c'est que c'est des instruments professionnels. C'est pas des instruments pour bébé.
D'accord.
Voilà, c'est des instruments de pro.
Alors, il y a une dimension différente, c'est qu'on ne se contente pas d'écouter ou de consommer le livre, on est aussi musicien en tant que lecteur enfant.
Enfin, complètement.
De 2 à 5 ans, on ne lit pas encore, ouais. Mais on écoute, mais on participe aussi, c'est-à-dire on fait le livre en même temps, enfin, on fait l'objet si c'est un livre.
Ouais. On lit, donc c'est illustré, et en plus c'est illustré musicalement, et on peut jouer derrière, donc avec l'instrument de musique est dessiné sur la page du livre, et donc l'enfant il joue. En fait, les gens qui ont acheté ça, ils me disent qu'ils jouent en famille en fait.
Oui.
Donc comme il y a 5 instruments, bah, des fois ça dépend combien on est dans la famille, mais tout le monde se joint et joue en même temps en fait.
En fait, bon, donc d'un côté, c'est une famille qui a fait ce livre, si j'ai bien compris.
Donc, ouais.
C'est toute la famille à produire ce livre, à fabriquer ce livre.
Oui,
et c'est reçu par des familles qui peuvent le consommer. Enfin,
oui, parce que les dessins sont enfantins. L'histoire aussi, c'est une histoire très simple. C'est un loup musicien, en fait, et qui est tout seul et qui, à travers la musique... Bien sûr, un loup, c'est toujours détesté. Mmh. Et à travers la musique, en fait, va rencontrer des animaux dans la forêt. Et à la fin, ils vont former un groupe. Donc voilà. Mmh. Donc vous pouvez trouver tous ces renseignements, encore une fois, sur le site d'Oxibia.
Donc j'en rappelle le nom, le titre.
Oxibia.free.fr.
D'accord. Bon. Eh ben, on va retrouver un sujet
plus lourd.
Plus lourd, enfin non, plus ouvert à des choses plus douloureuses, mais plus ouvert aussi, donc avec Daniel Chinès, donc avec son livre Dans les plis du chagrin, Lettre à l'absent, qui est la dernière production des éditions Oxibia. Donc justement, on parlait de la disparition de quelqu'un de jeune à 20 ans. Et donc les 50 années qu'il vous a fallu pour franchir les différentes étapes du deuil, les 5 que vous définissez, les 5 étapes. Et vous me disiez hors antenne que finalement ce qui n'était pas facile aujourd'hui, c'était que lui il avait 20 ans et aujourd'hui vous pourriez être sa grand-mère.
Oui.
Voilà. Et donc c'est vrai que est-ce qu'on garde de quelqu'un qui disparaît, est-ce qu'on a tendance à le garder comme il était au moment de sa disparition?
Les deux. C'est-à-dire que on le voit tel qu'il était à 20 ans. Et d'ailleurs, les photos vous rappellent comment il était physiquement. Mmh. La seule chose que je dis dans le livre, c'est que je ne retrouve plus sa voix. Mmh. Je ne sais plus, je n'entends plus sa voix d'enfant ni de jeune homme. Et je ne sais pas comment sa voix se serait transformée. Par contre, physiquement... J'ai imaginé tout au long de ces décennies comment il pourrait vieillir. C'est tout à fait étrange. J'ai franchi ces étapes en me disant, mais là, tu aurais 40 ans, là, tu en aurais 50. Voilà. Et puis, aujourd'hui, il aurait plus de 70 ans et je me suis imaginé comment il serait.
Et c'est possible d'imaginer ça?
Oui. Oui, je le vois assez bien, oui.
Bah, Moi, c'est pas tout à fait le même domaine, mais c'est vrai que j'étais en train de faire du rangement chez moi et j'ai retrouvé des lettres de écrites à des petites amies d'une époque où j'avais moins de 20 ans. Et effectivement, la question qu'on se pose, c'est...
Comment ont-elles vieilli ?
Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Quelle a été leur vie ? Où ils sont ? Et ça vous remonte comme ça. Et voilà, c'est aussi une perte d'une certaine façon. Et voilà, mais on essaye d'imaginer peut-être comment ils sont. Et on ne les reconnaîtrait pas dans la rue, forcément.
Si nous avions le temps, je vous raconterais comment j'ai retrouvé la fiancée de mon frère.
Oui.
À travers des péripéties administratives, j'ai fini par la retrouver, celle qu'il aimait et celle à qui il avait écrit un nombre considérable de lettres. Je le savais parce que j'ai retrouvé dans une armoire en formica que nous n'avions pas ouverte depuis plus de 50 ans. Nous avons ouverte seulement il y a un an et demi. Nous avons retrouvé toutes les lettres qu'elle lui avait écrites. Avec mon frère, celui qui vit encore, nous nous sommes demandé ce que nous allions en faire. Moi, j'étais plutôt partisane de les garder. Et mon frère a décidé de les jeter. Donc, nous les avons jetées. Il se trouve que cette fiancée, je l'ai retrouvée 3 mois après. Ça faisait plus de 50 ans que je la cherchais, je l'ai retrouvée. Évidemment, nous ne sommes pas reconnus physiquement. Et ça a été une situation douloureuse parce que je venais faire effraction dans son couple, dans le couple qu'elle avait formé avec son mari, celui qu'elle avait épousé bien après la mort de mon frère. Et ça n'a pas été tenable comme amitié. C'est-à-dire qu'il a fallu que je me retire et je l'ai fait volontiers parce que j'ai senti que c'était trop fort pour elle et c'était trop fort pour son mari aussi. Mmh. Voilà.
Voilà. Bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous vouliez nous lire un autre extrait ?
Oui,
vous avez préparé un autre extrait.
Justement, ce que je suis devenue.
D'accord.
Tu es décédée à 20 ans. Avec le temps, ta mort m'a plongée progressivement dans cette expérience improbable, insensée, d'être 3 fois plus âgée que toi. Je pourrais maintenant être largement ta grand-mère. De fraternelle, ma place s'est déplacée vers un horizon maternel. Tu m'as abandonnée à la vie. De ta jeunesse et de la mienne, ta mort a compliqué l'expérience cruciale de l'existence. Être femme, mère, grand-mère, vieille. J'ai passé ma vie à être en manque de toi. Si tu avais été à mes côtés, je me serais sentie plus en sécurité. J'aurais décuplé mes forces, tu m'aurais conseillé, tu aurais arrêté le bras prêt à s'emballer et à se jeter dans un imbroglio. Il paraît que les morts veillent sur les vivants. Ce silence définitif, je l'ai peuplé de nos dialogues imaginaires. Souvent, je t'ai raconté la transformation détestable de notre quartier de Blanche à Pigalle. Mes chagrins de la vie, c'est à toi que je les ai confiés. Je n'ai parlé de toi à personne. Les larmes au bord des cils dérangent.
Bon, on ira pas peut-être plus loin parce qu'il y en a beaucoup de choses qu'il faut qu'on digère. Mais enfin, ça vaut le coup d'aller dans ce livre parce que je crois qu'effectivement, ça remue un certain nombre de choses que, comme disait Régis, dont on n'a jamais parlé, qu'on a tous vécu plus ou moins, et donc je pense que ça peut aider beaucoup de gens, hein, effectivement, et c'est le rôle pour moi d'un livre, quoi, de partager quelque chose qui peut aider. Alors il y en a qui n'auront pas envie d'entrer dans ce type de livre, il y en a d'autres qui auront très peur de ça, puis il y en a d'autres qui sont
Il y en a qui peuvent pas,
Oui, qui peuvent pas, mais il y en a d'autres. Alors c'est une façon aussi, Régis disait, j'ai vécu des choses similaires, et c'est une façon aussi de se décentrer, c'est-à-dire au travers de l'histoire d'un autre, d'éviter de creuser trop sa propre histoire. Donc peut-être que c'est une façon de dire, voilà, et ça peut aider à sa propre histoire. Je crois que c'est le rôle des livres aussi de... Voilà.
Tout à fait.
Alors, ce que je voulais finir avec Daniel, c'est que vous avez une longue vie, vous nous l'avez dit, vous êtes grand-mère, et vous vous avez fait un certain nombre de métiers. Vous avez enseigné.
Oui.
Et vous êtes aujourd'hui thérapeute, toujours ?
Non, aujourd'hui, non.
Vous avez été psychothérapeute. Hein.
Je suis un peu psychothérapeute, c'est-à-dire j'ai conservé quelques patients qui m'appellent ou que je rencontre à Paris. Mais en fait, ce métier, évidemment, j'ai aussi pris ma retraite de ce métier-là.
D'accord. Mais par contre, vous animez toujours des ateliers d'écriture.
Des ateliers d'écriture, des cafés littéraires. On a le projet avec Régis de refaire ce café littéraire que j'adore animer. C'est celui sur Pierre Desproges. J'espère que
que ça va se faire. Il faut que je négocie avec la nouvelle mairie de Grasse.
De Grasse.
Oui, parce qu'en fait, tout près de chez moi, il y a une petite chapelle. Et donc, j'ai émis l'idée d'organiser des choses dedans pour animer le
des
quartier.
Des cafés littéraires, oui.
Cafés littéraires, spectacles, oui. Tout est ouvert. Mais il faut que je récupère le sésame, la clé oui. de cette chapelle. Donc voilà, c'est en cours, donc j'y travaille. Donc j'espère que début 2015, on pourra mettre en place quelque chose.
Alors justement, alors Daniel, oui c'est Daniel, les ateliers d'écriture, ça permet à certains de se libérer de choses comme ça ?
Oui, oui. C'est tout à fait singulier ce qui se passe dans un atelier d'écriture. J'ai souvenir d'un atelier à Draguignan où une femme a raconté pour la première fois de sa vie ce qui lui était arrivé. Elle s'était fait agresser dans une rue un soir où elle revenait du travail et elle ne l'avait jamais raconté à personne. Mais personne, ni à ses parents, ni à son mari, ni à personne. Et dans cet atelier, à l'occasion d'une proposition d'écriture que j'avais faite, elle a raconté cela. Alors évidemment, après, ce qui est à gérer, c'est l'émotion. À la fois l'émotion de la personne qui a écrit et puis l'émotion aussi que ça suscite chez les autres. Mais vous savez, quand j'avais fait mes études de psychologie, il y avait un prof qui nous avait dit, dans un groupe, quand quelqu'un raconte quelque chose de dramatique pour lui, il y a deux sortes de réactions. Ou bien le groupe est mal à l'aise, ou bien le groupe est empathique. Quand il est mal à l'aise, c'est que ce qui a été raconté est pas forcément réel ou bien assimilé. Tandis que quand le groupe est triste, c'est que vraiment la personne était en contact avec ce qu'elle avait vécu.
D'accord. Donc, je vous invite à lire le livre de Daniel Chinès, donc « Dans les plis du chagrin, lettre à l'absent ». Et je voulais aussi demander à Régis... pour les éditions Oxybia, les projets, c'est quoi ? En dehors de faire des choses dans cette chapelle à Grasse ?
Le prochain projet, je crois que ça va être la suite du premier roman qu'on avait édité dans cette collection, qui est Les Véritables. Donc l'auteur est en train d'écrire le deuxième tome, donc qui devrait sortir, je pense, début 2015. Premier semestre 2015. Et puis après, avoir les projets qui vont se présenter. Je sais pas.
Vous recevez beaucoup de propositions de textes?
Non, parce que justement, par rapport à l'organisation, entre guillemets, que j'ai, et le côté humain que je privilégie, je préfère pas donner de faux espoirs aux gens. Donc, je limite assez. Et bon, c'est vrai qu'en faisant les salons et tout ça, les gens, ils nous contactent et tout. Mais je leur explique les choses et bon, souvent, ils ne vont pas plus loin. Et puis bon, après, il faut vendre les projets qu'on a là, qu'on a en cours. Voilà, comme je ne fais pas que ça, c'est compliqué, ça prend du temps et on ne peut pas... Le travail, il commence quand le livre il vient de sortir. Voilà, c'est le travail. C'est le plus difficile qui commence, je dis toujours. Là, on a fait le plus facile. Donc, ça fait sourire Daniel quand je lui ai dit ça. Mais j'ai dit, tu verras. tu vas comprendre.
Donc, enfin, il y a 50 ans d'accumulation, c'est quand même de vécu. Et puis la sortie du livre, oui, c'est vrai que fabriquer le livre, c'est... Mais après, effectivement, le mettre à la disposition des lecteurs, c'est pas aussi simple qu'on
ouais,
pense.
C'est pas
quoi.
Aussi simple.
Ouais. Et puis ce que Régis ne vous dit pas, c'est que c'est un éditeur extrêmement exigeant. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lui envoyer le manuscrit ou de lui remettre dans les mains. Il va passer un temps fou à exiger de vous de revoir page par page comment c'est écrit. Et
mais après, il nous raconte qu'il n'a pas lu le livre.
Oui, il raconte qu'il n'a pas lu le livre, mais le nombre de fois où nous avons parlé de chacune des pages... me fait vous dire aujourd'hui, en toute simplicité, qu'il doit l'avoir appris par cœur.
Je ne sais pas si je le prends comme un compliment. Non, mais elle, c'est pareil. Daniel m'a fait en fait un compliment quand je lui ai amené le livre. Je lui dis ça va, tu es contente, tu es surprise. Elle me dit non, il est exactement comme je l'avais imaginé et comme tu m'avais dit qu'il serait. Je ne me trompe pas, c'est bien
non,
ça que tu m'as dit.
Exactement ça, oui.
Voilà. Donc, et ça aussi, c'est pareil, je voudrais aussi revenir sur un truc primordial, c'est l'imprimeur. J'ai tâtonné longtemps pour trouver l'imprimeur. Donc là, celui-là...
Ben, on peut en parler. Hein,
oui, citer, donc il a été fait chez l'imprimerie Trulli Avance.
D'accord.
Avec qui c'est très, très agréable de travailler, qui est à l'écoute, qui apporte des solutions... Et je me rappelle quand je l'ai contacté pour la première fois, il a pris la peine de me téléphoner. On a parlé. Il y avait un projet, mais il savait pas si ça allait être lui qui allait être choisi. Et on a discuté ensemble sur les moyens que j'avais, sur ce que je voulais, sur ce que je souhaitais, comment je voulais travailler, etc. Et depuis, ça n'a cessé d'évoluer. Et je dois dire que je vois dans les salons, je discute avec notre Jean, il me dit « Ouais, mais pourquoi tu ne fais pas imprimer en Espagne ou à l'étranger ?» J'ai dit « Ouais, mais ça ne m'intéresse pas parce que je n'aurai pas cette relation que j'ai avec l'imprimeur. » Déjà de confiance, je ne suis pas quelqu'un qui change facilement. Quand le travail est bien fait, et là le travail est bien fait, toujours dans les délais. Et donc voilà, je n'ai vraiment pas envie de changer. Et c'est pour ça que je souhaite l'associer vraiment, parce que les gens me disent « Ouais, t'as de beaux livres et tout. » Donc l'imprimeur est quand même aussi responsable de tout cela.
Donc l'imprimerie Trulli.
L'imprimerie Trulli Avance.
Avance, d'accord. Voilà. Non, mais c'est important ce que vous dites tous les deux, parce que qu'on soit auteur ou qu'on soit éditeur, on a besoin d'autres métiers. Hein. C'est-à-dire qu'on est auteur, le rôle de... Les gens souvent se disent « Mais... » je peux faire imprimer moi-même, j'ai pas besoin d'éditeur, c'est quoi, ils servent à quoi? Mais effectivement, ce que disait Daniel, c'est que, qu'est-ce que c'est que vous disiez un éditeur exigeant? C'est-à-dire quelqu'un qui vous fait avancer, en fin de compte, donc il vous aide. Et de la même façon, avoir un imprimeur qui est capable de vous conseiller, dire bon, bah, en fonction de tes moyens, de ce que tu veux faire, voilà ce qu'on peut faire, je crois que c'est important. Et on oublie souvent que c'est toute une chaîne, il suffit pas d'écrire pour qu'on ait quelque chose qui soit partageable avec un lecteur.
Oui, puis moi, je m'aperçois que je prends le temps. En fait, voilà, on discute de la couve quand on doit faire la couve, à la fin. Mais depuis le début, je pensais à la couve.
Oui, oui.
Et j'ai dit un jour, t'inquiète pas, à chaque fois, je me rappelle, elle me disait, t'as commencé la couve? J'ai dit, mais non, mais t'inquiète pas, un jour, l'idée viendra, t'inquiète. Donc... Après, on discute avec son compagnon. C'est lui qui a trouvé une des idées de la couve. Mmh. Donc voilà, et la couve, elle s'est mise en place. Et en fait, c'est ça qu'elle voulait. Donc, je prends le temps pour faire les choses. Comme personne, c'est moi qui décide. Voilà, même si, et je ne veux pas que ça soit mal perçu, je travaille avec des gens. Tous les auteurs que j'ai édités participent à la maison d'édition. J'ai bien envie d'ailleurs de les citer. Donc, il y a Nathalie Bellesso, Patricia Dao, Flaviano Pizzanelli. Donc voilà, tous ces gens-là participent ardemment à la maison d'édition et à l'association Oxibia. Voilà, sans eux, moi, je ne suis pas grand-chose non plus. Mmh. Voilà. Donc c'est important.
C'est aussi, on a parlé de famille dès qu'on a parlé du du livre de Daniel Finesse. Et une maison d'édition, c'est aussi une famille avec des auteurs qui ont des choses à dire, des exigences, des attentes, des propositions, des idées.
Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est, à la limite, c'est moi qui vais prendre la décision finale de l'édition ou non. Mais il y a tout un travail en communauté déjà pour vendre le livre, pour en faire la publicité, déjà pour l'écrire. Voilà. Et après, moi, je ne dois pas saboter le travail de l'auteur. Donc voilà, j'ai un mot pour résumer tout ça. Donc j'ai dit à Daniel, le précieux va bientôt sortir. Donc voilà.
Alors, justement, je voulais parler de... Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous dites, mais il y a tout à faire. Comment vous travaillez pour faire connaître le livre? Est-ce que vous faites des salons? Est-ce que vous faites un certain nombre de manifestations en dehors de la petite chapelle? Est-ce qu'il y a où est-ce qu'on va pouvoir vous trouver, rencontrer les auteurs? Parce que Daniel a sûrement donné envie d'être rencontré, de partager. Il y aura des gens qui auront envie de lire son livre, mais aussi d'en parler avec elle et rencontrer l'éditeur. Où est-ce qu'on va vous trouver bientôt?
Donc là, nous, on a contacté déjà les librairies, on a contacté toutes les médiathèques. Donc si des gens nous écoutent qui sont intéressés pour mettre le livre en dépôt-vente et organiser un débat, qui nous appellent, on essaiera de trouver ensemble les meilleures solutions pour parler de ce livre. Après, dans le salon, on a un salon, c'est Vence, qui est à la fin du mois. Et puis, on sera bien à Montsartou.
D'accord. Donc, le salon de Vence, c'est 27 et 28 septembre.
Oui.
Et Montsartou, c'est 3, 4, 5 octobre.
Hein. Oui,
d'accord. Vous serez aux deux.
Oui.
Avec Daniel sera là aussi pour parler de son livre.
Oui, je serai là. Oui.
Donc, à côté de votre éditeur, pour défendre à la fois la maison d'édition, comme les autres auteurs que Régis vient de citer.
Voilà, il y aura aussi Patricia Dao,
avec
son livre Bormida pour les éditions Oxibia, et un nouveau livre qu'elle a édité chez un autre éditeur, qui s'appelle Anna, je crois. Mais voilà, sans aucun problème. Et il y aura aussi la trilogie de Alda Merini. Donc, c'est des livres de poésie. Nous, on a été les premiers à éditer Alda Merini, qui est une célèbre poétesse italienne. Et les livres sont traduits par Patricia Dao, avec la collaboration de Flaviano Pizzanelli, qui lui aussi a un livre édité chez moi. C'est 70 poèmes. Et ces éditions-là, c'est des éditions bilingues, français-italien.
Français-italien. Donc il y a deux livres, je vois, il y a deux livres d'Alda Merini.
Trois maintenant.
Oui. D'accord.
Ouais.
Donc avec des titres un peu fabuleux, je vois. Ça s'appelle Délire amoureux.
Ouais.
Ça fait envie.
Et le dernier, qui sera aussi le dernier de Alda Merini, qui s'appelle Terra Santa, qui est son œuvre majeure, qui avait été pressentie pour avoir le prix Nobel de littérature avec ce livre-là. Mais comme elle n'était pas assez traduite à l'étranger, elle ne l'a pas eue. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a édité et on a été les premiers à le faire en France.
D'accord. Et donc, elle est traduite dans plusieurs langues. Donc, à chaque fois, c'est des livres en... Toute sa série, à elle, c'est des livres dans les deux langues.
Oui.
En italien, en français.
Oui. Nous, on l'a édité en bilingue. Français-italien.
Donc, et c'est elle qui traduit ou c'est traduit par quelqu'un d'autre?
Non, c'est Patricia Dao qui a traduit les livres. Alda Merini est décédée en novembre 2009.
OK.
Trois mois après la sortie de son premier livre chez nous, en fait. Donc, voilà.
Donc là aussi, c'est un deuil.
Ouais, encore une fois.
Voilà. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle aurait pu encore écrire et faire comme chemin avec nous.
Oui, et puis c'est quelqu'un qui voulait que ses livres soient édités. C'est pour ça qu'elle nous a choisis dans une petite maison d'édition. Parce qu'elle est très, très, très populaire. Elle faisait beaucoup de talk shows à la télévision italienne. Et elle a permis de faire évoluer la poésie italienne. Bon, c'est quelqu'un qui a une histoire aussi assez compliquée. 15 ans d'hôpital psychiatrique. Enfin. Donc, ses textes sont très, très forts. Et c'est vraiment une référence connue dans la poésie. Toujours des textes très forts, très engagés. Donc, voilà. Je peux parler aussi un peu de Bormida, qui est le dernier roman de Patricia Dao, qui, pareil, raconte une histoire de 117 ans de combat, trois générations de combat pour la fermeture d'une usine qui polluait une rivière qui s'appelait Bormida et qui polluait toute une vallée sur 100 km. Et Patricia raconte en fait ces 10 dernières années du combat pour la fermeture de l'usine dont elle a participé. Donc voilà, et la maison d'édition aussi s'engage parce que là on est allé aussi en Italie contre le tunnel qu'ils veulent faire entre Lyon et Turin. Donc voilà, on est allé soutenir les Italiens, on est allé deux fois faire des week-ends lecture. Donc voilà, la maison d'édition s'engage.
Donc c'est pas des pavés que vous balancez, mais des livres.
Voilà, voilà.
Pour défendre des idées, etc. Oui, oui, au propre et au figuré, hein, vous balancez des livres. Bon, ok, ben merci. On écoute un morceau de musique.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Bon, ben voilà, donc on se retrouve dans les livres ont la parole, l'émission Les livres ont la parole. On va quitter donc nos invités, nos deux invités, donc Régis Daubin et Daniel Chinès. Voilà, j'oublie tout le temps les noms des gens au fur et à mesure.
C'est l'émotion.
Non, c'est pas tellement l'émotion, c'est un vieux truc que j'ai comme ça, voilà. J'oublie les gens, j'oublie pas les gens, j'oublie leurs noms. Voilà, donc on rappelle qu'ils sont venus nous présenter le dernier né des éditions Auxibia, qui est le livre de Daniel Chinès, Dans les plis du chagrin, lettre à l'absent. On en a longuement parlé, qui est un long deuil vécu depuis 50 ans, et qui est un livre assez, je pense, assez... On va se plonger là-dedans, parce que je crois que c'est important. Et donc, on vous retrouvera volontiers au Salon du Livre de Vence le 27 et 28 septembre. Et puis, à Moins-sur-Artoue, les 3, 4 et 5 octobre.
Tout à fait.
Hein, vous nous avez parlé aussi de tout plein d'auteurs qui seront...
Qui seront là, certains sont présents. Sur le stand, oui, voilà. Pour dédicacer les livres.
Eh bien, merci, et puis à bientôt.
Merci,
et nous, on se retrouve
dans
quelques minutes après un peu de musique pour parler de quelques livres, un coup de cœur d'un lecteur, et puis quelques nouveautés qui viennent de... que j'ai trouvé intéressant. Voilà.
Merci à vous de nous avoir donné la parole, de nous avoir reçus. Merci à la radio, Fréquence Mistral, et du technicien.
Voilà.
Merci à lui.
Jean-Marc.
Voilà.
Merci à vous.
Ben merci à vous deux, et puis peut-être une prochaine fois pour
oui,
autre
pourquoi
chose.
Pas pour la soupe aux livres.
Voilà, par exemple. Allez, à bientôt.
Ce brouillard épais dans un matin d'hiver, pour ton escale, pour ton retour et ta mélancolie, je t'invente une page blanche pour t'inscrire, pour que tu te blottisses au creux de mon sourire. Tu te déploies, hirondelle de nuit, tes ailes sur ma tige, force mon envol au-dessus du ressac. Je suis un autre toi-même, une nouvelle morsure, ton marin pour ton escale, un présent désir, une future brisure, peut-être un ancien naufrage. Croise ma vie en toi. Je devais être en chemin depuis le sortilège qui nous a ensablés. J'arrive à contresens au parvis de la mer et j'entends la voix d'Ève coulant dans ton sexe. Je croyais être perdu dans les terres froides, prisonnier du silence. Mais ton cri cicatrice a réveillé mon âme. Porteuse du feu, tu m'incites au voyage. Je suis un autre toi-même, une nouvelle morsure, ton marin pour ton escale, un présent désir, une future brisure, peut-être un ancien naufrage. Je croise ma vie en toi. Appelle ma verge, je sonde en toi. En glissant dans ton ventre, je découvre l'ancêtre, rescapé derrière l'écran de tes caresses. Il crie dans la nuit, il annonce l'abîme. Tant de cicatrices, de viols, de mystères percent de la mémoire de ta statue de sel. Je suis un autre toi-même, une nouvelle morsure, ton marin pour ton escale, un présent désir, une future brisure, peut-être un ancien naufrage. Croise ma vie en toi.
Alors, on retrouve l'émission Les Livres ont la parole. Alors, Jean-Marc, on vient d'écouter Maurice Bénin.
Et c'est le morceau L'Escale.
L'Escale. Donc, c'est une très belle chanson.
C'est magnifique. Oui. Ouais.
Voilà. Donc, apparemment, Jean-Marc aime bien Maurice Bénin.
J'aime bien Maurice Bénin, ce qu'il fait et l'homme.
Oui. D'accord. Ben moi, je voulais juste donner, maintenant, on va s'approcher de la fin de l'émission. Je voulais parler d'un livre qu'on m'a proposé comme coup de cœur. Hein. Donc, c'est Marie Clouart qui m'a proposé ça comme coup de cœur. Un livre écrit par un écrivain grec qui s'appelle Eugène Trivisas. Ça s'appelle Le Dernier Chat Noir. Et c'est édité dans une mince maison d'édition. Parce qu'on dit plus petite maison d'édition, il y a les gros et les minces. Donc il y a les grosses maisons d'édition, puis il y a les maisons d'édition minces. Une mince maison d'édition qui s'appelle Édition du Jasmin, qui fait des choses vraiment bien. Donc c'est une traduction de Michel Justrabo, qui est une traductrice, traduit donc du grec vers le français. Alors c'est une histoire qui n'est pas non plus une histoire très marrante, même s'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. C'est un roman noir quand même, puisque il est question de, dans une petite île grecque, d'un seul coup, il y a un groupe de gens qui convainc le gouvernement et la population que tous les malheurs du pays sont la faute des chats noirs. Et ils proposent faire une campagne d'extermination des chats noirs. Et donc celui qui raconte est un chat noir, et qui sera le dernier, puisqu'on va arriver à convaincre les gens, et y compris les autres chats, qu'ils sont en danger, que tous les maux qui leur arrivent, le chômage, les difficultés, les problèmes financiers, tout ça, ça vient de chats noirs. Alors on connaît bien ça, et en Grèce, il y a eu quelques exemples assez avec la Grèce des colonels, etc. Donc ça finit par être la chasse à l'homme, c'est le On choisit de mettre toutes les fautes sur un bouc émissaire, hein, c'est bien connu, ça permet d'éviter de regarder les choses en face.
C'est un vrai problème. Alors,
voilà, oui, et je voulais lire des petits extraits, et un en particulier. Donc, effectivement, alors, c'est donc de plusieurs chats qui parlent entre eux. J'ai une idée, dit soudain Goudron. Laquelle ? Je sais qui pourrait nous aider. Qui ? Tu as entendu parler de la Société Protectrice des Animaux ? Maintenant que tu le dis, oui, je crois bien. Qu'en penses-tu ? Ça les intéresserait peut-être de savoir tout ce qu'on en bave. Ils nous protégeraient peut-être. Tu n'as pas tort. Bonne idée. Allons-y. Maintenant ? Pourquoi attendre ? Allons les trouver. Leur dire que nous sommes des animaux ayant besoin d'un soutien urgent. Oui, oui. Et d'un peu de lait, un peu d'eau, un peu de câlin et tout et tout. En demandant notre chemin ici et là, nous parvînmes au bureau de la société, une bâtisse solitaire, négligée, entourée d'un jardin d'amandiers. Les ornements de plâtre de la façade étaient tous délabrés. Un large escalier menait à l'entrée que bordaient deux grands bacs de palmiers. Enfin, me dis-je, fini nos tourments. Ici, nous pourrons faire valoir nos droits. Nous montâmes les marches, mais l'arrivée sur le palier coupa notre élan. À l'entrée, on avait rayé l'inscription « Société protectrice des animaux » et écrit en dessous « Société protectrice des hommes contre les chats noirs ». Vous voyez, c'est... Bon, alors c'est à la fois plein d'humour, c'est à la fois assez terrible, c'est une histoire assez terrible avec ces gens qui finissent par convaincre tout le monde, de y compris les autres chats, quoi. Donc il y a des autres chats blancs, en particulier le héros a une petite copine qui est une chatte blanche qui finit par lui trouver qu'il est dangereux et de plus le fréquenter. Et donc et finalement je révèle pas toute la fin du livre, mais je veux dire c'est extrêmement dangereux de choisir comme ça. Voilà, donc « Le dernier chat noir » d'Eugène Trivisas, dans une traduction de Michel Justrabo aux éditions du Jasmin. Donc ça, c'est vraiment un livre qui est à la fois plein d'humour et puis qui, qui révèle bien ce qui peut nous arriver si on ne fait pas attention. Parce qu'après, on se dit, bon, ben, c'est les chats noirs, mais nous, ça ne nous concerne pas. Et puis, après, on s'attaque au chat blanc. Puis après, on s'attaque à...
Et on est tous le chat noir de quelqu'un.
Exactement, voilà. Hein. Et moi, j'ai un chat noir qui est adorable, qui s'appelait Cœur Vaillant. Il s'appelle Cœur Vaillant. Et il a peur de rien. C'est pour ça qu'on dit Cœur Vaillant. Rien,
rien d'impossible.
Rien d'impossible. Voilà. Est-ce qu'on réécouterait un tout petit bout de musique ?
Ah, si tu veux, une petite reprise, une mince reprise interprétée par Birelli Lagraine et Sylvain Luc, ça s'appelle Syracuse.
Syracuse. Donc il y a un autre livre dont moi je voulais parler parce que ça me paraît important. C'est le livre de Claude Martel paru aux Alpes de Lumière sur la langue régionale d'un écrivain de Haute-Provence, Pierre Magnan. Et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant parce qu'on a à la fois un dictionnaire, on va dire, de ces mots. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur la langue régionale. Alors, il ne s'agit pas du provençal, hein. Il s'agit de cette langue qui est propre à chaque région. C'est-à-dire que même si on parle tous une langue commune, on croit parler tous une langue commune qu'est le français, puisqu'elle a été, je dirais, imposée à tout le monde dans tout le pays, il reste que dans chaque région, dans chaque endroit, parfois même dans chaque métier, on a un parler particulier qui sont des restes de vécu et qui sont aussi des restes des langues régionales, des langues propres qui étaient l'occitan, des choses comme ça. Et je trouve que c'est intéressant. Et il y a toute une analyse qui est faite sur l'utilisation qui en est faite par Magnan. Quoi. On trouve dans ses bouquins un certain nombre de mots qu'on partage avec lui quand on est de cette région. Et donc ce Adieu pays de Claude Martel aux éditions Les Alpes de Lumière, la langue régionale d'un écrivain de Haute-Provence, je trouve que c'est très intéressant. Voilà. C'est pas un polar, mais ça nous apprend plein de choses sur ce que c'est que la langue régionale en particulier. Et puis tous ces mots, des fois on trouve des mots comme ça dans des bouquins, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et puis on a un bon petit dictionnaire sur...
Et entre provençal et occitan, quelquefois les mots ne veulent pas dire forcément la même chose.
Oui. Mais là c'est pas du tout, là, on parle pas de l'occitan, du provençal qui a comme racine l'occitan, mais on parle vraiment de ces mots qui sont rentrés dans la langue française, dans cette région-là, qu'on trouvera pas à Marseille, qu'on trouvera pas à Lille. Hein, ils en ont d'autres, ou chez les Bretons, c'est-à-dire ils parlent le français avec un certain nombre de mots qui viennent de la culture locale, qui est ce qu'on appelle le français régional, quoi, la langue régionale. Voilà. Donc, je trouve que c'est un livre intéressant. Alors, une autre chose que j'ai découvert, puisque aujourd'hui, maintenant, je vais prendre ma casquette d'éditeur des éditions Parole. On a édité donc récemment deux livres sur qui traitent de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Donc, Trois jeunes appelés dans les Aurès de Sophie Alfieri. Et puis, tout récemment, De si beaux ennemis, qui sont des nouvelles de Soumia Amar Kodjia. J'ai relu des textes de Anouar Ben Malek, comme Les Amants désunis, qui sont des livres aussi très durs et très forts sur l'Algérie de l'époque de la guerre et aussi de tout ce qui s'est passé, en particulier avec cette espèce de guerre interne qu'il y a eu avec les islamistes. Et donc, c'est... c'est aussi des livres à relire, puisqu'on approche, ce que je vous rappelle, c'est à la Toussaint 1954 qu'il y a eu le déclenchement de la lutte armée par le Front de Libération Nationale Algérien. Donc c'est quand même une date, c'était il y a 60 ans. Ça a touché pas mal de gens en Algérie et en France, parce que les appelés ont vécu des choses assez, assez dures. Voilà. Voilà un petit peu nos dernières publications. Donc les tout derniers livres qu'on a publiés, donc c'est De Si Beaux Ennemis, de Soumia Amar Khodja, et puis Le Large dans les Poubelles, de Marie Lebolli, qui est un jeune auteur, une jeune femme qui est institutrice juste à côté de Digne. Et donc là, c'est un roman plus agréable, plus fait pour des jeunes et des moins jeunes, hein, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline et qui est adoptée par une famille au Danemark. Et puis elle découvre qu'elle a un cousin à Marseille, donc elle décide de tout quitter, de venir à Marseille. Malheureusement, son cousin, il n'est pas là à l'arrivée du train parce qu'il est au Beaumet, il a quelques petits ennuis avec la justice. Donc elle va se trouver livrée elle-même dans cette ville de Marseille, il lui arrive beaucoup de choses. Hein. Et finalement, elle va rencontrer un garçon formidable dont elle tombe amoureuse. Et puis ils vont remonter cette Provence depuis Marseille jusqu'à Digne, hein, en particulier, parce qu'on a tout un épisode qui se passe à Digne et tout autour de Digne. Dans les montagnes, les forêts de la région, etc. C'est un livre assez haletant en même temps, parce qu'il y a des poursuites, il y a plein de choses, mais assez intéressant. Voilà. Sinon, il y a d'autres livres qui vont paraître aux éditions Parole. Et puis, c'est la période où on entame, après l'été, bien qu'on ait eu... Une vie agitée, on a fait en particulier la foire de la lavande, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission, la foire de la lavande où il y avait une allée du livre, hein, où on a pu effectivement rencontrer des gens nouveaux. Et pour les mois à venir, donc il va y avoir le 27 septembre, pour les gens qui ont envie de nous retrouver, on sera à Barcelonnette, la librairie Imaginée, puisque Laurent Béraud de la librairie Imaginée organise chaque année au moment de la Saint-Michel, qui est la foire de Barcelonnette, une manifestation autour du livre, un salon du livre avec un certain nombre d'éditeurs et d'auteurs. Le 28 septembre, ce sera la fête du parc du Verdon à la Verdière dans le Var, à côté de pas loin de Vinon. Ensuite, les 8 et 9, on sera à Besançon pour le lancement du livre de Soumia Amar Khodja dont on vient de parler, de Si Beaux Ennemis. Les 10, 11 et 12 octobre, on sera en Alsace, à Bovesheim, dans un petit village qui, au moment de, en 1939, au moment de, où il y avait la menace de l'entrée des Allemands en Alsace et en Lorraine, l'État français a déplacé des villages entiers d'Alsaciens pour les mettre à l'abri, et eux, ils ont atterri en Dordogne. Donc on a publié un livre d'un travail de recueil sur ce sujet-là. Voilà. Ensuite, il y aura toute une série de soupes aux livres. On sera au Salon du Livre de Colmar, 25 et 26 octobre. Sinon, les soupes aux livres. Première soupe aux livres, 31 octobre à Fort-Calquier. Le 14 novembre à Valence, le 22 à Claret dans la vallée de la Durance, le 28 novembre à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 5 décembre on retournera à Fort-Calquier, et enfin le 14 décembre on sera au marché de Noël de Hobbs. Voilà, un petit peu, mais on retrouvera toutes ces dates sur notre site et les nouveautés et tout ce qu'on essaye de faire comme animation. Voilà, on arrive au bout de cette émission, merci à tous, merci Jean-Marc.
Nickel, merci donc, Jean.
Voilà, on se retrouve dans un mois.
Voilà, je pense que Odile sera à tes côtés la prochaine fois, sinon au plaisir.
Voilà, puis on était content d'accueillir les éditions Oxibia et son auteur. Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Nicole dans la petite voie de Saint-Amand, je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y a un arbre pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand, où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps.